7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bienvenue, 7 milliards de voisins, jeune femme de banlieue, née en France, de parents immigrés, étudiante à l'université, à Sciences Po, puis entrepreneur et enseignante aujourd'hui, musulmane, voilée, dévoilée, elle a retiré son voile il y a près d'un an. Notre invitée du jour cumule les identités et défie les catégories. Elle a été confrontée dès son plus jeune âge au racisme, à l'islamophobie et à un certain nombre de préjugés. Aujourd'hui, elle raconte son parcours et ses péripéties dans un livre plein d'autodérision, d'humour et sans rancœur. Bonjour Mariam Tiganimine.
Bonjour Charlie.
Vous vous revendiquez différente comme tout le monde. C'est le titre de l'autobiographie que vous publiez à 30 ans. Alors pourquoi à 30 ans avez-vous eu envie de raconter votre parcours ?
Pour être très honnête avec vous, en fait, on m'en a fait la proposition. J'avais pas forcément l'idée d'écrire un livre, mais j'ai fait la rencontre d'un éditeur. Donc Christophe et enfin deux éditeurs et de Pascaline, donc du passeur,
qui ont trouvé votre histoire intéressante.
Oui, en fait tout est parti d'un post Facebook donc qui datait de l'été 2016 il me semble, donc dans lequel je parlais, enfin donc c'était la fameuse actualité liée au burkini et donc voilà, j'avais fait un post voilà parlant de cette problématique qui pour moi en fait était voilà une polémique de plus dans tout ce qu'on a connu en France autour du voile, de la femme musulmane, etc. Et donc j'avais fait un post un peu à l'image de ma plume dans le livre. Quoi.
Et c'est comme ça qu'on vous a contacté,
et qu'on m'a contacté,
pour raconter
qu'on m'a
votre histoire. Et on n'est jamais trop jeune hein, pour faire le point, le bilan de sa vie. Aujourd'hui, vous accompagnez la création d'entreprises, notamment en banlieue parisienne, mais pas seulement. Et grâce à des tutoriels vidéo, votre entreprise s'appelle Babel Business, on en reparlera. Les voisins, les voisines, si le parcours de notre invitée Mariam Tiganimine vous intrigue, si vous avez envie de lui poser vos questions ou si vous vous retrouvez dans ce qu'elle a vécu, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous pouvez aussi nous écrire hein, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Alors sur Facebook pour l'instant nous avons surtout des questions qui alimenteront cette émission. Je laisse un peu de suspense. Je vous lis simplement le message d'Afi à Kinshasa qui n'est pas une question d'ailleurs, je le cite: le parcours de Mariam Tiganimine est très encourageant pour nous, elle a dû passer par beaucoup d'épreuves et aujourd'hui elle devient un modèle pour les gens.
Un petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite.
Je suis d'une génération où il y avait la mixité quand j'ai grandi, donc il n'y avait pas que des Arabes et des Noirs dans les quartiers, donc on avait des Portugais, des Italiens d'origine, des Espagnols, des Franco-Français, nos parents travaillaient, se levaient le matin et autres. Aujourd'hui, tu prends l'école de la République laïque et gratuite dans les banlieues, tu n'as que des Noirs et des Arabes. Sur 30 gamins, tu en as 28. Alors moi, je ne dis pas que c'est un problème, je dis simplement que l'image de la France aujourd'hui, ouais, qui est un pays multiculturel, cosmopolite et autres, comment se fait-il qu'à un moment, dans certaines zones, tu sois dans l'entre-soi? Donc que c'est presque les réseaux communautaires qui doivent effectivement pallier au réseau de la République. Non, je suis désolé, l'école républicaine pour moi, c'est la mixité.
C'est pas facile avec vous, c'est tout. Ça pourrait être très simple, vous savez. Vous écoutez en classe, vous faites le travail qu'on vous demande, et tout ira bien, vous verrez. Vous aurez même de bonnes notes.
C'est pas possible.
Si, si, je vous assure que si.
Vous savez très bien que c'est pas possible.
Ah bon? Et pourquoi donc?
Parce que je suis idiot.
Il y a une vraie désespérance éducative dans un certain nombre d'endroits qui ne sont pas forcément que des banlieues au sens classique du terme, mais il y a un vrai besoin de recréer des lieux refondateurs pour notre pays.
Sur les bancs de l'école en banlieue, un mix réalisé par Sophie Janin. Mariam Tiganimine, c'est à l'école que vous avez compris, vous l'écrivez, que vous étiez différente et que vous étiez même, pour vous citer, une bougnoule doublée d'une prolo.
Oui, c'est vrai que les mots sont
provocatrices,
provoquant assez fort même, sorti effectivement du livre. Mais oui, en fait, enfin, j'ai choisi tout d'abord de parler de l'école parce que, comme je le dis, c'est là-bas que j'ai senti la différenciation et les premières discriminations. Effectivement, liées à mes origines ethniques, liées à mon origine culturelle, sociale, pardon. Et aussi, c'est pas un hasard parce que c'est en sixième en fait au collège, première année de collège, que j'ai commencé à porter le voile et que ça a véritablement été problématique dans mon rapport aux enseignants. Donc pas tous, bien entendu. Je tiens à le préciser. Enfin, le but c'est pas de stigmatiser tous les enseignants parce que Dieu merci, j'en ai rencontré des très bons et des très encourageants. Mais c'est vrai que j'en ai rencontré d'autres qui étaient très violents. dans leurs propos, dans leurs actes. Et ça a eu un certain nombre de conséquences dans mes orientations scolaires, dans mes notes. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Parce que pour moi, l'école, c'était un temple sacré. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait présenté. C'est comme ça aussi qu'on nous le vend, en fait, quand on nous dit, voilà, vous êtes tous les enfants de la République. Et que l'école, en fait, c'est un lieu, voilà, où il y a une certaine égalité, une certaine fraternité. Et en fait, pour moi, ça n'a pas du tout été ça. Et j'ai eu du mal à l'accepter parce que bah, quand vous êtes une écolière, une collégienne ou une lycéenne, bah, vous vous attendez à ce qu'on vous juge en fait sur bah, sur votre travail, sur vos notes, sur votre voilà votre envie de réussir. Et voilà, c'est ce que j'avais voulu et c'est pas forcément ce que j'ai obtenu de la part des enseignants.
Alors vous ne portiez pas le voile dans l'enceinte de l'établissement,
non,
puisque c'était interdit. Par contre, vous portiez souvent un bandeau large, un bandana, un bonnet, une capuche, quelque chose pour cacher vos cheveux.
Donc pas dans la salle de classe, plutôt à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il y a certains enseignants en fait qui avaient compris donc que j'étais voilée, qui ont même pu me voir en fait à la sortie de l'école. Et à partir de là, d'ailleurs, j'ai vu des comportements changer. Donc des enseignants qui étaient pas du tout, qui pouvaient être un peu racistes. Enfin, il y a pas de un peu raciste. Enfin, vous êtes raciste ou vous ne l'êtes pas. Mais en fait, c'était général et ça s'adressait à tout le monde. Mais en fait, quand ensuite vous êtes visé, parce qu'effectivement la veille le prof vous a vu avec un voile à la sortie de l'établissement, bah voilà, vous comprenez que bah, son changement de comportement il est lié à ça.
Notamment un professeur en collège qui vous dit il faut faire attention à ce que tu mets sur ta tête, on dirait que ça t'empêche de réfléchir.
Exactement, j'ai aussi un prof de lycée qui, donc j'étais tombée malade et une camarade avait demandé à récupérer les copies de cours et il a dit bah, finalement le voile ça protège pas du froid. Donc voilà, ça peut faire rire, mais sur le coup en fait ce que je dis à chaque fois, c'est que je n'ai jamais été aussi bien notée que quand mes copies étaient cachetées. Et ça, c'est vrai. J'ai toujours eu de meilleures notes avec des gros écarts de points quand mes copies étaient cachetées, avec pas mal de profs. Donc à un moment donné, voilà, on peut se dire oui, c'est de la paranoïa, peut-être que je le prends pour moi, etc. Mais quand ça se traduit concrètement, bah, on se dit bon, bah, finalement, j'étais pas si paranoïaque que ça. Après, bien entendu, encore une fois, enfin, je tiens vraiment à le préciser, il y a aussi des enseignants qui étaient très bien. Moi, je me souviens de ces profs qui nous ont soutenus. Donc en 2004, donc l'année de la fameuse loi
qui a interdit les signes religieux à l'école.
Exactement. Et des profs en fait qui n'ont pas compris qu'on veuille virer de l'établissement des jeunes filles qui en plus ne portaient pas de voile à l'intérieur de l'établissement, hein. C'était des bandanas mais qu'on achetait en fait dans les voilà chez H&M et autres quoi, dans les commerces classiques, et qui ne le faisaient pas parce que ils étaient pour ou contre, enfin c'était pas la question, c'était surtout de se dire voilà, enfin c'est quand même absurde de vouloir libérer des jeunes filles, des jeunes femmes en les excluant de l'école. Ce qui est vrai. Et donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a aussi de très bons enseignants qui ont marqué aussi ma vie, que je remercie d'ailleurs aussi dans le livre.
Il ne s'agit pas de stigmatiser une profession.
Tout à fait. Voilà.
L'école non mixte hein, dont on entendait parler tout à l'heure, vous l'avez connue, vous le racontez en primaire notamment.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle des écoles ethniques, où on est regroupés... à l'image en fait des habitations dans lesquelles on est, et c'est vrai que moi mes camarades la plupart en fait étaient originaires avaient des origines voilà d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique noire, ce qui en soi effectivement n'est pas un problème, mais le problème c'est l'entre-soi en fait quand on vous met donc on vous parque. Et c'est vrai que la diversité d'ailleurs qu'elle soit ethnique ou sociale était pas présente, et effectivement c'est un manque de richesse, et ça se ressent sur notre parcours, sur nos notes, sur notre scolarité en général, et c'est quelque chose qui vous suit de toute manière. Et c'est vrai que moi j'ai connu une véritable mixité que lorsque j'ai intégré le supérieur, que je suis sortie de ma banlieue, que j'ai pris le train pour aller à Paris, et que je me suis aperçue que ben en fait la France, enfin ou en tout cas l'Île-de-France, c'était bien plus que Mantes-la-Jolie. Et en fait
grandi.
vous vous confrontez en fait à d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez être d'accord ou pas d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes origines que vous, qui ne vivent pas dans les mêmes quartiers, qui n'ont pas les mêmes références. Et cette richesse, en fait, elle vous construit, elle vous blinde aussi, parce que vous devez apprendre à vous défendre, à défendre en fait vos idées. aider. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on connaisse pas cette richesse bien plus jeune, parce que clairement, elle a des effets aussi sur notre scolarité. Quand vous êtes avec des enfants de profs, des enfants d'artistes, des enfants d'entrepreneurs...
Ça vous enrichit.
Ça nous enrichit, mais surtout, en fait, vous voyez la différence de capital culturel et de capital symbolique quand il s'agit de chercher un stage ou quand il s'agit voilà, d'aller un peu plus loin dans une dissertation, dans certaines lectures. Et là, vous sentez la différence. Après, bon, moi, ça m'a pas freiné, au contraire. Ça m'a poussé en fait, à aller un peu plus loin. Mais je ne regrette pas du tout en fait, toutes ces années, à la fois faites de violence et de moments joyeux, qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez sur le parcours de Mariam Tiganimine, vous inspire, vous interroge. Si vous vous retrouvez aussi dans ce qu'elle a vécu, on vous attend au 33 1 84 22 71 71. Mais d'abord, c'est vous qui êtes notre programmatrice musicale aujourd'hui, Mariam Tiganimine.
Oui.
Et vous avez choisi pour nous bercer Sea de Tion Sec.
Ginaw bo magise di mare ma wan la ginaw ngay ak sama der ma jar dara
baile ni baga
war lu law le binela
baile ni baga
war lu
Mariam Tiganimine, en choisissant cette chanson, vous m'avez dit que vous aimiez la fusion et puis aussi que l'Afrique était le continent de vos origines. Alors, vos parents sont nés au Maroc, ils ne sont pas allés à l'école et vous vous dites fille d'ouvrier. Alors, que faisaient vos parents en France ?
Bah, mon père était ouvrier, ce qu'on appelait un OS, chez Renault.
Donc, mais, dans l'automobile ?
Tout à fait. Et avant, en fait, il travaillait dans les mines du Nord, mines de charbon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu en France, parce qu'on est venu le chercher pour travailler dans les mines, comme beaucoup de Marocains à l'époque. Et ma maman était mère au foyer. Et aujourd'hui, ils sont à la retraite.
Et vous avez grandi dans une fratrie de 6 enfants, dont vous êtes la Benjamine. Et avant vous, vos frères et vos sœurs ont fait des études.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un peu la différence que je peux avoir avec eux et d'autres qui ont à peu près le même profil que moi, c'est que même si j'ai eu des parents qui n'ont pas été à l'école, ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs d'être derrière nous, hein, et comme je dis dans le livre, mes parents avaient développé des astuces en fait pour nous suivre. Moi, très tard, j'avais pas percuté en fait, mes parents n'avaient pas été à l'école. Qui comprenaient pas en fait ce que je faisais à l'école
et qui ne savaient pas lire,
ni écrire, parce que moi je voyais ma mère quand elle voyait du rouge, elle savait que fallait sévir. Quand elle voyait du vert, elle savait que c'était bien, donc sur le cahier. Et donc moi, pour moi, ma mère savait lire et écrire, et voilà, il y avait pas de problème. Et c'est vrai que j'ai eu l'aide de mon frère et de mes sœurs qui eux étaient beaucoup plus âgés que moi. J'ai un frère qui a 15 ans de plus que moi, donc eux ont été à l'école, ont fait pour certains des études supérieures. Et c'est vrai qu'autour de moi, il y avait des livres, il y avait des sorties culturelles, etc. Donc ce qui m'a permis d'être bien entourée, tout simplement, et d'avoir une scolarité assez suivie.
Et vous êtes allée d'abord à l'université de Nanterre, hein, vous dites, okay. C'est en allant à l'université que je suis sortie pour la première fois du microcosme dans lequel j'ai grandi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous marque là-bas à l'université ?
Déjà, c'est immense, hein, Nanterre, c'est un très grand campus. À mon époque, c'était plus de 30 000 étudiants. Et puis la diversité des profils, et puis la diversité des cours aussi. Donc j'arrive là-bas, je fais un double cursus en économie, gestion et en sociologie. Et je découvre plein d'auteurs, plein de savoirs, plein de personnes. Donc des gens bien comme des gens moins bien, bien entendu. Je découvre aussi la politique, l'engagement politique et militant. Donc c'était une époque très, très chargée. C'était l'époque du contrat première embauche, donc avec une mobilisation étudiante très forte. Et là, je découvre des maoïstes, des gens de gauche, de droite, des anarchistes, des gens d'extrême droite aussi.
Et des gens de fac très politisés.
Exactement. Et des courants idéologiques, philosophiques très marqués. Donc plein de conférences, plein de trucs. Et donc moi, j'étais un peu... j'avais beaucoup de... très contestataires parce que j'avais à chaque fois dû me défendre à l'école pour défendre mon droit à porter un bandana ou être qui j'étais. Et donc j'avais envie de m'engager moi aussi, puis je me suis vite aperçue qu'on me renvoyait constamment à la figure mes origines sociales et mon voile.
Notamment un professeur qui vous demande, vous venez d'où ?
Oui. Oui, ça, au niveau des enseignants, effectivement, j'avais un prof qui voulait absolument savoir d'où je venais, et moi, très naïvement, la première fois qu'il m'a posé la question, je pensais qu'il me demandait d'où je venais du campus, en fait, de quel bâtiment, et en fait, ça a bien duré 5 minutes, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, qu'il me demandait mes origines, et je suis la seule à qui il les demandait. D'ailleurs, dans la classe, en fait, j'étais là. On était peut-être deux, à pas être en fait blanc, tout simplement. Et là, oui, enfin, je me suis dit, mais ça va me suivre jusqu'à quand, quoi. Je pensais qu'à l'université, les profs étaient un peu plus, avaient voyagé, savaient beaucoup de choses. Mais en fait, non. Et c'est vrai que, et je le dis dans le livre, les préjugés les plus tenaces, je les ai remarqués chez des profs qui, justement, avaient beaucoup voyagé, et des profs, en fait, qui, par exemple, enseignaient l'ethnologie, l'anthropologie. Et donc, ils pouvaient être au Yémen, au Bénin, avoir fait le tour du monde, et qui étaient les premiers, en fait, à sortir des choses, mais énormes, quoi. Et le jour, en fait, où j'ai vraiment compris que certains étaient des charlatans, c'est quand on a commencé à nous parler d'un village berbère du sud du Maroc, donc pas très loin d'où mes parents sont originaires. Et là, j'ai entendu des choses et là, j'ai compris, quoi. Enfin, ça m'a fait rire plus qu'autre chose. Et j'ai su que certains profs étaient vraiment des charlots, quoi.
Alors après votre cursus universitaire à Nanterre, vous intégrez Sciences Po en master. Ouais. Un parcours que vous n'auriez pas imaginé, hein. Vous le dites vous-même, vous êtes longtemps auto-censuré, vous obtenez A+ à l'écrit, A+ à l'oral et A+ à l'examen de votre dossier. Alors j'en profite pour vous relayer la question d'un auditeur, d'un voisin, oui. Oumar, à Garoua, dans le nord du Cameroun. Comment vous avez réagi le jour où vous avez vu vos rêves se réaliser ? Alors je ne sais pas si c'était un rêve de rentrer à Sciences Po, peut-être certainement une fierté. Comment vous l'avez vécu ce jour-là ?
Oui, non, c'était cool. D'ailleurs, je donne mes notes pour crâner un petit peu dans le livre, mais c'était pas un rêve. Mais c'est vrai que en fait c'était donc à la suite d'une reprise d'études et l'idée c'était de savoir est-ce que je devais retourner à la fac ou aller dans une école et donc j'en discutais beaucoup avec mon associé donc Reda qui était mon mentor à l'époque mais associé actuel dans le business mais qui était plus que ça en fait et j'en ai aussi discuté avec mon fiancé qui ne l'était pas encore à l'époque et qui m'a dit quelque chose de très vrai. Il m'a dit en France en fait on fait beaucoup attention aux titres et ce que tu devrais faire
et au CV
ce que tu devrais faire c'est aller faire une école et donc j'ai suivi les conseils de Mehdi ce qui s'appelle comme ça et j'ai passé le concours, j'en ai passé qu'un seul. Et d'ailleurs, il m'a aidé à faire le dossier, à préparer l'oral, etc. Et donc après, j'ai eu A+, A+, A+. Et c'est vrai qu'en fait, je vous parle de ces deux personnes parce que en fait, c'est celles qui m'ont fait progresser en fait et m'ont fait entrevoir des choses en fait, des choses en fait que je considérais comme inaccessibles, que je considérais comme pas possible pour moi, du fait de mes origines, du fait de mon parcours, etc. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des barrières que je m'étais aussi mise toute seule.
Toute seule.
Même s'il y a des barrières qu'on vous met. Mais
Mariam Tiganimine, surtout, vous restez avec nous. On n'a pas fini de revenir sur votre histoire, cette trajectoire personnelle, mais qui fait écho à un certain nombre d'actualités en France et ailleurs. On vous retrouve tout de suite dans 3 minutes après le flash d'info sur RFI. À tout de suite, les voisins.
Milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a des histoires qui paraissent banales, mais qui font écho à notre réalité, qui font le portrait en creux d'une société, la société française en l'occurrence, avec ses failles, mais aussi ses forces. Nous sommes en compagnie de Mariam Tiganimine, entrepreneur qui a grandi en banlieue parisienne, mais qui a su déjouer les déterminismes et échapper au destin que certains lui promettaient. Elle refuse, comme elle le dit, l'étiquette de beurette de banlieue ou de bougnoule de service, car vous le comprendrez vite si vous nous rejoignez, son franc-parler est aussi sa marque de fabrique. Pourquoi en effet faudrait-il jouer le jeu des catégories faciles qui rassurent, différentes comme tout le monde? C'est le titre de l'autobiographie que vous publiez aux éditions Le Passeur, Mariam Tiganimine. Et les voisins, les voisines, si vous vous retrouvez dans cette trajectoire, si les mots de notre invité vous interpellent, vous inspirent, et même si vous n'avez rien de commun avec elle, vous nous appelez pour poser vos questions au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71. On vous attend aussi sur notre page Facebook. Alors Mariam Tiganimine, vous racontez dans votre livre le rapport que les autres entretiennent avec votre voile, en plus d'ailleurs que votre propre cheminement spirituel. Et à l'université, vous avez pu entendre de curieuses remarques de professeurs à ce sujet. Alors que le débat en France d'interdire le voile à l'université émaille régulièrement l'actualité, il est porté notamment ces derniers jours, ces dernières semaines, par Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti Les Républicains.
Est-ce que la droite que vous défendez et la laïcité que vous défendez est pour l'interdiction du voile à l'université ?
Oui, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait un port de voile à l'université. Je connais parfaitement les arguments, consistant à dire que ça fait partie de la liberté. Quand on est au-dessus de 18 ans, c'est un choix qu'on peut faire. Mais moi, c'est l'université française. Le sujet pour moi, c'est quand on est dans une enceinte où, au fond, l'affichage très volontariste de ces signes religieux est en réalité un travail de propagande.
Les bijoux, les croix, les mains de Fatma, les étoiles de David, tout cela, ce ne sont pas des signes ostensibles, mais il y a des vêtements qui sont des vêtements que l'on considère comme étant ostensiblement religieux. C'est interdit à l'école. Moi, je propose l'extension à l'ensemble de la sphère publique.
Ça n'est pas une option. Pourquoi ? Parce que la laïcité, comme je le disais, c'est une liberté. L'université, c'est le rassemblement d'individus adultes, de conscience éclairée. L'université, c'est le lieu d'expression politique, d'opinion. Et donc, à l'université, on peut avoir une religion. Qu'est-ce qui gêne ? C'est qu'une femme puisse être obligée de porter le voile et d'aller à l'université. Si cette situation existe, aller à l'université pour cette femme, c'est peut-être l'un des seuls endroits de liberté. C'est peut-être un des seuls endroits où elle peut accéder au savoir à d'autres. Par un laïcisme qui va plus loin que la laïcité, vous recréez...
Vous la renvoyez à la main.
Vous recréez du communautarisme.
On a donc entendu Laurent Wauquiez, Marine Le Pen et puis Emmanuel Macron. Mariam Tiganimine, quel regard vous portez sur ce débat du voile, d'interdire ou non le voile à l'université ?
Je pense que le président Emmanuel Macron a tout dit. Hein. Vraiment, j'ai vraiment rien à ajouter à ce qu'il a dit. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'absurdité, voilà, qui consiste à vouloir interdire d'accès. Donc à vouloir interdire l'accès à l'enseignement à des personnes qu'on considère comme, comme soumises, comme voilà, forcées à porter le voile. Enfin, pourquoi vouloir les exclure d'un espace, au contraire, où elles pourront, je ne sais pas, selon se libérer ou autre. Surtout que quand on est adulte, quand on est à l'université, on est adulte. Et à partir de là, voilà, moi je suis pour qu'on laisse toutes celles qui disent le porter par choix, les laisser le porter. Et effectivement, si certaines le portent parce qu'elles sont forcées, faut les aider. C'est un peu comme légiférer comme on légifère dans certaines théocraties pour forcer les femmes à porter le voile. Pour moi, c'est la même position, en fait. Vouloir forcer certaines à le retirer, alors qu'elles vous disent, en fait, qu'elles le portent par choix, c'est comme, en fait, vouloir forcer certaines qui ne veulent pas le porter, donc les forcer à le porter. Après, moi, le reste, les Wauquiez et compagnie, moi, déjà, j'ai très peu d'estime pour les gens qui vivent la politique. Et ensuite, ça sert un agenda politique et personnel et j'ai pas trop d'avis là-dessus.
À l'université, vous voulez faire de la recherche à l'époque, mais votre voile vous bloque, c'est ce que vous écrivez. Vous vous demandez même à quoi bon rester dans un milieu où je resterai un voile sur pattes. Alors, en quoi le voile vous a bloqué pour cette orientation-là ?
Parce qu'en fait, être chercheur, donc c'est être aussi fonctionnaire, être payé par l'État et puis... moi, l'enseignante que j'avais rencontrée donc dans le cadre voilà, c'était une encadrante de mon master, donc qui m'avait dit, voilà, enfin, vos notes sont très bonnes, j'aime beaucoup votre personnalité, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et donc, moi, je lui ai parlé de la recherche, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis elle m'a dit, non, mais par rapport à votre dossier, à votre personne, il n'y a aucun problème, mais je vous le dis tout de suite, pour votre voile, ça va être mort. Parce qu'en fait, voilà, il vous faut, en tant qu'agent de l'État, il faut une certaine neutralité, blablabla. Et donc, bon, en fait, j'ai pas cherché à aller plus loin parce que je voyais autour de moi d'autres femmes voilées, notamment mes sœurs, donc qui avaient fait beaucoup d'études supérieures et qui se retrouvaient en fait au chômage parce que ça bloquait tout le temps, dans le public comme dans le privé d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, à quoi bon essayer de me faire accepter d'un milieu en fait qui veut pas de moi comme je suis? Surtout que voilà, cette enseignante savait qui j'étais, m'appréciait en tant que personne, appréciait mes notes. Et pourquoi en fait un bout de tissu sur la tête pouvait la gêner ou pouvait gêner l'institution. Voilà, donc après j'ai décidé d'aller faire autre chose, j'allais pas supplier en fait pour qu'on me comprenne. Et c'est vrai que même aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il y a certains milieux donc qui pouvaient en fait m'ignorer ou en fait me stigmatiser quand j'étais voilée, et qu'aujourd'hui par principe en fait je n'irai pas revoir. Parce que je suis la même personne, j'ai juste plus la tête couverte.
Alors justement, ouais. On va parler de cette transition-là. Vous avez décidé d'enlever le voile définitivement, ou en tout cas complètement, il y a un an, à la suite d'une longue transition qui a duré près de 5 ans. Pourquoi cette décision ?
C'est vrai que je l'évoque un petit peu dans le livre, pour différentes raisons, à la fois des raisons personnelles. Enfin, que des raisons personnelles d'ailleurs. Des raisons... voilà, lié à un parcours spirituel qui est le mien, qui est personnel, lié à une envie en fait aussi d'affirmer ma singularité. J'en avais aussi marre, voilà, qu'on m'associe à des personnes avec qui je partageais rien, si ce n'est une apparence en fait, donc celle de porter un voile, de porter quelque chose sur la tête, et d'autres raisons. Et c'est vrai que je m'étale pas trop dessus parce que c'est encore en réflexion dans ma tête. Et puis c'est pas très intéressant, enfin, je le porte plus maintenant, ça se voit, on passe outre. Moi je pensais que ça allait provoquer plus de réactions dans mon entourage ou autre, même sur les réseaux sociaux, et en fait pas du tout, les gens s'en fichent. Quand j'ai posté ma première photo sans voile, on a juste fait une réflexion sur ma coupe de cheveux ou sur mes boucles d'oreilles, quoi, mais pas plus.
Et vous avez les cheveux coupés, très courts.
Oui, voilà, très courts, exactement. Mais c'est vrai que c'est une question qui obsède. J'ai donné une interview il n'y a pas très longtemps, donc plus d'une heure et demie d'interview pour à la fin retenir deux minutes en fait, sur cette question-là. Et c'est vrai que voilà, il y a eu plus de 1000 commentaires, mais sur voilà, elle l'a retirée parce qu'elle a cédé aux pressions, etc. Alors que pas du tout, en fait, je n'ai cédé à rien du tout. Comme je le dis souvent, oui, je suis un être qui change dans un monde qui change. Donc peut-être que je le reporterai un jour ou pas du tout, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, là, ça me convient comme ça aujourd'hui. Et puis la vie des autres, pour être très honnête avec vous, j'en ai un peu rien à faire, quoi.
Alors on va évoquer tout à l'heure votre rapport avec les médias, un rapport un peu parfois surpris, déroutant et conflictuel. 7 milliards de voisins, nous sommes en compagnie de Mariam Tiganimine, aujourd'hui une jeune femme entrepreneur. On vous attend, les voisins, en 33 1 84 22 71 71 et sur notre page Facebook.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Alors les médias, Mariam Tiganimine, entretiennent une curieuse relation avec vous, notamment à l'époque où vous dirigez le webzine culturel, le magazine en ligne Hijab and the City, un magazine que vous avez fondé avec votre sœur de 2008 à 2011, et dans lequel vous relayez la vie en fait de femmes françaises et musulmanes comme vous, la vie quotidienne. À ce moment-là, vous commencez à recevoir des demandes d'interviews. Alors j'en cite quelques-unes. Bonjour, je souhaiterais vous faire réagir à l'anniversaire du 11 septembre en tant que femme voilée. Seriez-vous intéressé par cette interview? Une autre journaliste qui vous interviewe et puis vous dit ensuite on ne publiera pas cette interview puisqu'elle manque de clichés. Et enfin, je vous cite cette réaction d'une autre journaliste. Vous avez un petit caractère en plus, c'est bien, on verra une voilée avec du caractère.
Oui, oui, moi ça me fait rire aujourd'hui parce que ça fait un petit moment maintenant, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de journalistes. Là encore, comme pour les enseignants, il ne s'agit pas de stigmatiser une corporation. Enfin, vraiment, je tiens à le dire parce qu'à côté de ça, j'ai des amis journalistes avec qui, voilà, enfin, bah, qui sont des amis et qui font un travail formidable. Et oui, en fait, à l'époque d'Hijab and the City, donc, qui était un site qui voulait donner la parole à des femmes, donc, à qui on ne donnait jamais la parole, mais dont on parlait beaucoup dans les médias, donc c'était les femmes françaises de culture musulmane, dont je faisais partie, donc j'étais un peu la première consommatrice de mon média. Et c'est vrai qu'on a eu en fait beaucoup de journalistes qui nous ont contactés parce que pour eux, on était un phénomène. Et puis c'était le premier en fait, magazine du genre, en plus en ligne. Et on avait pas mal de lecteurs, pas mal d'événements en fait, autour de ce média. Et c'est vrai que les premières couvertures médiatiques qu'on a eues, c'était des journalistes étrangers, américains, espagnols, italiens, d'un peu partout dans le monde, qui avaient un rapport en fait très apaisé. Parce que c'est vrai que cette question de la femme musulmane et du voile, il n'y a qu'en France, et surtout en France en tout cas, qu'elle est vite hystérisée. Et donc en fait, quand les journalistes internationaux pardon, sont d'abord intéressés à nous, sont venus ensuite les journalistes français. Et il y en a certains qui étaient complètement fous, quoi. Plein de clichés, plein de préjugés. Et pourtant, on faisait le tri, parce que nous, on n'en avait un peu rien à faire d'être interviewés. Nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout d'avoir un lectorat, une communauté de personnes donc, qui nous suivaient. On avait plus de 300 000 visiteurs uniques par mois. Donc bon, en termes de visibilité, c'est nous qui allions chercher une par une nos lectrices, etc. Et donc parfois on refusait, souvent même on a beaucoup refusé des directs, des débats avec des politiques, parce que tout ça nous dépassait. Et pour certains journalistes c'était problématique qu'on ne leur serve pas en fait le discours auquel ils s'attendaient, qu'on soit pas donc soit les ni putes ni soumises, soit en fait des étendards religieux, qui étaient là à défendre une cause religieuse. C'était pas du tout le cas. Nous on était là en fait, on était des femmes, des occidentales de culture musulmane. Et on aimait la mode autant que les questions de société, autant que les questions psycho, etc. Et on avait en fait un traitement décalé de toutes ces questions.
Et ce webzine justement, Hijab and the City est devenu ensuite une start-up avec un vrai modèle économique. Et c'est vrai qu'on en vient à un sujet que nos voisins aiment beaucoup. Ouais. Plusieurs voisins s'interrogent sur ce que vous faites aujourd'hui, sur cette entreprise que vous avez lancée, Babel Business. Alors Freud nous écrit depuis Bangui en Centrafrique. J'aimerais savoir comment lui est venue son idée d'entreprise. Et puis on a également Fousseni qui nous demande depuis Bamako, avez-vous en tant qu'entrepreneuse des liens avec l'Afrique ? Alors je vous laisse répondre à ces deux questions. Donc alors, Babel Business d'abord,
oui,
qu'est-ce que c'est ?
Bah, ça m'est venu en fait effectivement à la suite de Hijab and the City et de Babel Bag, donc, qui était un autre projet que j'avais cofondé. Et en fait, donc, avec mon associé actuel, on s'est rapidement rendu compte que l'envie d'entreprendre, en fait, elle était présente chez beaucoup de personnes, mais qu'il manquait, il manquait des outils en fait, des outils pour leur permettre de se lancer. Donc de se lancer sans trop prendre de risques, parce qu'on s'est rendu compte que les freins au lancement, c'était surtout des freins psychologiques. C'était la peur du changement, la peur de l'échec, l'attitude négative, etc. La peur du manque de moyens qui vient bien après à tous ces freins psychologiques. Et on s'est dit comment faire en fait, pour aider toutes ces personnes à se lancer, pourquoi pas développer des micro-formations, des micro-outils pour permettre à n'importe qui, donc par exemple, de se lancer en 24 heures. Le premier outil qu'on a développé, c'est 24 heures pour monter son business avec ou sans idée, avec ou sans argent, avec ou sans moyens. Et même avec ou sans conviction. Ça, c'est... Et donc, c'est quelque chose qu'on a proposé sur le terrain. Donc, on a travaillé avec des personnes qui étaient allocataires du RSA, des personnes au chômage, des femmes en fait, qui avaient développé leur petite activité de vente de rue, mais qui ne savaient pas trop comment bien la formaliser, comment la faire pérenniser. C'est aussi une formation qu'on enseigne à Sciences Po, avec des étudiants qui sont en master finance. Exactement. Et donc, en fait, nous, quel que soit le background de la personne, tant qu'elle veut faire du business, nous, on est là en fait, pour lui apporter les outils. Et voilà, les outils nécessaires pour comprendre ce qu'est un produit, pour comprendre ce qu'est en fait un prix. Donc tous les mécanismes voilà, qui peuvent être associés au lancement d'une activité.
Et pas de lien, comme le demande un autre voisin, avec l'Afrique pour l'instant ?
On a quelques liens avec l'Afrique parce que donc, Babel Business, on a aussi testé un peu la micro-distribution. On s'est beaucoup inspiré, nous, de l'économie informelle qui, pour nous, en fait, est une vraie économie. C'est vrai qu'en Occident, pour nous, l'économie informelle, c'est quelque chose de souterrain, d'obscur, propre aux pays du Sud, aux pays d'Afrique. Mais au contraire, en fait, pour nous, on s'est beaucoup inspiré des vendeurs de rue, des vendeurs même à la sauvette, parce qu'en fait, il y a vraiment un génie économique derrière, il y a vraiment une ingénierie qui est développée avec très peu de moyens. Et donc voilà, on a commencé en fait à faire de la micro-distribution. On a eu une expérience au Maroc, en Ouganda. Et en fait, on a vraiment l'intention de proposer nos outils au-delà de la France. La France, c'est le pays dans lequel on est et dans lequel en fait on fait nos premiers tests. Mais l'idée en fait, c'est de s'adresser à tout le monde, partout dans le monde, à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business.
7 milliards de voisins, on se retrouve dans un instant pour écouter un autre parcours qui va vous intéresser, lui aussi, les voisins. Mais tout de suite, Allo Black avec I Need a Dollar. En compagnie de Mariam Tiganimine aujourd'hui. Alors lui aussi a voulu défier les catégories, les étiquettes. Il s'appelle Malik Zoubeiri, il a 25 ans, il est originaire des Comores. Depuis 2 ans, il travaille comme technicien d'alarme. Chaque jour, il sillonne les routes d'Île-de-France pour installer et réparer des systèmes de télésurveillance. Mais en plus de ce travail, il est également réalisateur autodidacte. C'est ça, sa vraie passion. Il écrit, tourne, monte des courts-métrages qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. Il aspirerait à devenir acteur, réalisateur à temps plein, mais le milieu du cinéma est bouché. Encore plus quand on habite à Grigny, une des villes les plus pauvres de France, hein, située à une vingtaine de kilomètres de Paris, en banlieue. Il est au micro de Philippine Lebris.
Le jour où j'ai senti que j'étais un banlieusard, un jeune de banlieue, dans le regard d'un citoyen français, c'est lorsque je me suis présenté chez un client, je me suis présenté chez lui, qui est resté H24 collé à moi jusqu'à la fin de l'intervention, parce qu'il s'est peut-être dit que j'allais lui voler ou faire quelque chose comme ça. Très sincèrement, si on me proposait de revivre ma jeunesse ailleurs, je dirais non. Pour moi, j'ai eu une enfance qui est tout à fait normale, basique, un enfant comme tous les autres. Je suis arrivé à Grigny à 10 ans. J'habitais à Évry-Courcouronnes, une ville voisine, donc j'ai emménagé à Grigny à 10 ans avec ma mère et mes petits frères et sœurs. Je faisais du sport, de la boxe, je traînais souvent dehors avec mes amis. On regardait Yamakasi, des jeunes qui font des acrobaties, qui courent, mais qui représentent encore une fois des jeunes de quartier. Parce qu'en fait, les films qui nous marquaient lorsqu'on était plus jeunes, c'était les films où on se sentait représenté. Il n'y en avait pas beaucoup, donc ça nous faisait comprendre que voilà, on choisit les banlieusards uniquement pour représenter la banlieue dans les films, mais mis à part ça, on n'a plus besoin d'eux. Allez, au revoir. Donc voilà pourquoi, malgré que je vous ai cité 3 ou 4 films, il n'y en avait pas assez pour me dire « Ah, ben, moi aussi, je peux y aller ». Vous voyez, quand vous avez des difficultés pour manger, que vous voyez que votre mère, elle est toute seule, que c'est pas facile pour elle, qu'elle s'occupe de plusieurs enfants, qu'elle vit dans des bâtiments abîmés, cassés, coupé du monde extérieur, on va dire, parce que lorsque vous habitez à Grigny, il n'y a que Grigny, c'est tout, et que quand vous regardez des films, vous voyez principalement que les acteurs sont blancs ou qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont bien habillés, etc., que vous vous renseignez et que vous voyez qu'il faut aller dans une école de cinéma si vous voulez être réalisateur, que cette école est payante, vos parents n'ont pas d'argent, vous le voyez pertinemment, donc à qui vous allez parler de ça ? Personne. Justement, lorsque j'en parlais à mes professeurs, ils me recadraient directement en me disant « Écoute, tu vas finir à l'intérim, c'est pas pour toi. » On nous casse toujours dans nos idées, dans nos espoirs, dans nos rêves. Et pourquoi ils ne croyaient pas en nous, ben, ça c'est une question que j'aimerais bien leur poser, hein, je sais pas. Hein. C'est eux les adultes, hein, nous étions que des enfants.
Hein. À quel moment est-ce que vous avez commencé à penser que ce serait possible et que vous alliez pouvoir réaliser des films ?
Pour tout vous dire, j'ai compris qu'en fait, en France, si tu veux être un acteur et que tu es un homme de type africain, c'est ce qu'on dit quand on cherche des castings, des figurations, etc., type africain, des rôles pour nous, il n'y en a pas des masses. Donc j'ai compris qu'il fallait que je réalise mes propres projets si je voulais être acteur. Donc moi, il y a 2 ans, j'ai commencé à réaliser des petites vidéos avec mon téléphone. Petit à petit, en faisant des petites vidéos, je me suis dit, bon ben, écoute, je pense que là, c'est le bon moment de te lancer dans le cinéma comme tu l'as voulu. Hein. Regarde, qu'est-ce qui va t'en empêcher maintenant ? T'écris, tu filmes, tu joues, tu fais du montage, t'as toutes les qualités pour faire un film. Donc, un jour, j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle « Vivre ou mourir ». Ça parle d'un jeune de banlieue qui travaille afin de subvenir aux besoins de sa famille. La mère décède. Et de là, ben, la vie du jeune garçon va complètement partir en vrille. J'ai écrit, ensuite j'ai acheté le matériel nécessaire afin de pouvoir le finaliser. Donc j'ai joué, j'ai appelé des amis à moi, mon petit frère, j'ai acheté un drone, j'ai acheté un ordinateur. Et ben, ensuite j'ai réalisé mon petit court-métrage. C'est un film qui dure 41 minutes, qu'on peut retrouver sur YouTube. Et j'ai aussi réalisé une petite vidéo qui s'appelle « Tu as quoi de plus que moi ?» Vidéo réalisée dans le cadre d'un concours organisé par YouTube et Google qui s'appelle « Toi-même tu filmes » qui consiste à réaliser une vidéo de 90 secondes sur le thème de la fraternité. Et sur 800 participants, c'est moi et mon équipe qui avons remporté le concours et on a eu le droit à un voyage à Los Angeles. Et depuis ce concours, ben, ma vie a quelque peu changé. J'ai fait énormément de belles rencontres, des réalisateurs, des producteurs. C'est magique, on va dire. C'est magique. Et voilà.
Et de quoi est-ce que vous partez pour écrire vos films ou vos séries ?
Ça commence toujours par une expérience personnelle de base. J'habite en banlieue. Je suis en droit de parler de la banlieue, étant donné que j'ai vécu dans la banlieue, je sais ce que c'est. Je ne vais pas commencer à parler des quartiers bourges de Paris, par exemple. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment on vit là-bas. Je ne me vois pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu ou pas connu.
Sur le plan cinématographique, quelles sont vos inspirations, vos références ?
La personne qui m'influence le plus dans le milieu du cinéma, c'est Denzel Washington. Il fait bien les choses, clairement. Il a pas eu peur de parler de l'esclavage, de prendre des rôles comme Malcolm X, Mohamed Ali. Il incarne aussi le noir qui peut être un professeur, qui peut être un colonel de l'armée, vraiment une personne influente. Il nous fait rêver à travers lui, on rêve, on se dit « Ah, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui montre qu'on n'est pas bon ». Qu'à faire des bêtises ou qu'à faire telle ou telle chose. On peut être aussi des grandes personnes. Si je peux dire que quelqu'un m'influence dans le milieu, c'est bien lui, c'est bien Denzel Washington. Ouais.
Et qu'est-ce qui fait que malgré que vous n'ayez pas énormément d'argent, pas beaucoup de contacts, pas de formation professionnelle dans le cinéma, vous avez toujours cette motivation très forte de continuer à en faire ?
En fait, il y en a marre de regarder des films sur la banlieue réalisés par des gens qui n'ont pas vécu en banlieue et qui prennent des acteurs qui ne vivent pas forcément en banlieue. En gros, j'ai envie d'ouvrir une porte. À travers moi, je veux qu'une porte s'ouvre à d'autres personnes. Je veux montrer que malgré les difficultés, malgré le manque d'argent, malgré le manque de contact, etc., tout seul, avec la détermination, on peut réaliser quelque chose de grand.
Mariam Tiganimine, comment vous réagissez à l'écoute de ce témoignage ?
C'est à la fois encourageant, et, mais aussi dramatique. Parce que moi, je considère que voilà, si quelqu'un a un talent, de la volonté, de l'envie, il faut lui donner les moyens en fait, de ses projets. Quoi. Et c'est vrai que ce que décrit ce monsieur, en fait, j'y souscris totalement. On arrive en fait, à avoir des sportifs de haut niveau, et notamment des footballeurs. La crème de la crème dans des banlieues. On arrive à les tirer des banlieues, mais on n'arrive pas en fait dans d'autres domaines à avoir autant de résultats. Et alors que ça peut faire rire, mais pour être Benzema ou un autre sportif, enfin footballeur de son niveau, on subit beaucoup plus de sélections que pour intégrer une école de droit ou une école de cinéma ou autre. Donc à partir de là, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on maintient en fait cet état. C'est pas une question de manque de talent ou manque de travail. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ça dramatique, mais à la fois encourageant, parce que le jeune homme explique qu'il a pris son destin en main et qu'avec un téléphone portable, grâce à Google et YouTube, et là aussi c'est dramatique, parce que voilà, c'est toujours des étrangers qui viennent et qui vous tendent la main, alors qu'en France, on a les moyens en fait de...
Et justement, pour finir cette émission sur une note positive, vous racontez dans votre livre que beaucoup de personnes rencontrées à l'étranger vous disent « Mariam, ce que tu es, ce que tu fais, c'est tellement la France ».
Exactement.
Qu'est-ce qu'elles entendent, selon vous, par ces mots-là ?
Ma manière de parler, déjà mon accent pourri en anglais aussi, c'est qui est tellement la France. Ma manière de parler, de m'habiller, de me comporter, mes références, mon parcours. Effectivement, c'est la France. Après, je tire aucune fierté à être française. Je suis née, c'est un état de fait. Voilà, je suis née en France. Voilà, maintenant je l'assume. J'ai pas choisi. Je suis française.
Mais vous l'êtes pleinement.
Exactement. Et qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Merci. Et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours.
Merci à vous, Mariam Tsiganine.
Merci à vous, Charlie.
Je rappelle le titre de votre livre, Différente comme tout le monde, publié aux éditions Le Passeur. Et ça fait du bien en période de repli sur soi. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Sophie Jeannin, la réalisation Cécile Lavolo en coulisses. Baptiste Madinier pour vous répondre, les voisins. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, malgré quelques poches de résistance ici. Et là, les fast-foods essaiment à travers la planète. Les plats préparés séduisent toujours plus de consommateurs. Alors pourquoi autant d'amour pour la malbouffe ? On en parle demain. À demain, les voisins.